Nous avons vu cette arme qu'est la confession pour nous ouvrir à la grâce du repentir et nous ouvrir aussi à des lumières toujours plus profondes de Dieu. Le fait de dire humblement les choses nous aide à les voir. Simplement, en entrant dans cette démarche-là, même si la personne auquel on les dit n'a pas de conseil particulier à donner, d'éclairage particulier, le fait d'avoir assez d'humilité pour dire les choses simplement nous ouvre à des lumières toujours plus profondes. Le Seigneur nous parle, peut nous éclairer directement dans notre cœur. Il peut nous parler, évidemment, à travers les événements et à travers nos frères et sœurs. Mais il y a un moyen qui est toujours à notre disposition et qui est sa parole. Écoutez ce que dit l'Épître aux Hébreux. La parole de Dieu est vivante, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle. Dominé par son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. En fait, notre vie de pénitence, elle doit se vivre dans une confrontation continuelle à la parole de Dieu et non pas dans une introspection dans laquelle nous chercherions à nous regarder, à nous connaître nous-mêmes sans d'abord regarder vers Dieu, sans nous laisser rejoindre par sa parole. C'est un fait que l'Écriture a un pouvoir particulier. C'est un fait que l'Écriture a ce pouvoir de parler à notre cœur et d'en révéler les pensées cachées, même cachées à nous-mêmes. Elle pénètre jusqu'à la jointure de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire à la jointure du psychisme et de l'esprit, c'est-à-dire aussi elle nous révèle l'engagement de notre liberté. Elle nous révèle, au-delà de nos péchés charnels, nos péchés spirituels, ceux qui se situent au niveau du cœur. Elle révèle les intentions et les pensées du cœur. Donc elle nous révèle ce que humainement nous ne pourrions pas voir parce que notre propre cœur, nous ne le sondons pas, il n'y a que Dieu qui le sonde vraiment. Le cœur de l'homme est rusé, tortueux plus que tout et pervers, qui peut le pénétrer, dit Jérémie. Moi, le Seigneur, je scrute le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun d'après sa conduite, selon le fruit de ses œuvres. Alors nous retrouvons ici cette image d'une entrée progressive dans la profondeur du péché, de notre perception du péché. Je pars de Saint Jacques. Écoutez bien ce que dit Saint Jacques. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise, ayant conçu, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son terme, enfante la mort. Je vais prendre un exemple qui m'a beaucoup frappé. Je connais un garçon qui s'est converti vraiment d'une manière très forte et qui avait un grand zèle pour évangéliser. Une fois, il se retrouve dans un café et il tombe sur une femme avec laquelle il engage un dialogue et il cherche à lui parler de Dieu. À un moment, la femme se lève et lui dit, c'était en plein été, près d'une forêt, elle lui dit, on y va. Et il se lève, il la suit et je vous laisse deviner la suite. Et j'ai trouvé la chose éclairante parce que quand cette femme qui devait, je dirais, le regarder et dégager par tout son être sa convoitise, l'a appâté. Comme à son insu. Vous voyez, c'est-à-dire, en fait, c'est la convoitise. Ici, chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. C'est-à-dire, ici, c'est un amour possessif, fusionnel, un amour impur, mais qui s'offre. Et la personne, quelque part, elle consent, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est prête à commettre adultère. Cette femme était mariée. Et lui est loin de. Si elle lui avait dit les choses clairement, il aurait tout de suite dit non. Mais bon, il y a un appât, il y a une comment dire, c'est la passion elle-même qui séduit, et une fois qu'on a consenti à cette passion nous entraîne. Passion enfante l'acte. Mais il y a, vous voyez, un accrochage avec la convoitise qui fait que l'expression est étonnante, la passion, la convoitise ayant conçu, comme s'il y avait eu un accouplement. Au fond de mon cœur, c'est le cœur qui consent. Au fond de mon cœur, je mords à l'hameçon et la suite, elle est nécessaire. Ensuite, tout découle. Je suis prise dans un engrenage qui a sa source dans cette mystérieuse complicité de mon cœur avec la passion. Le péché, c'est l'acte concret qui est produit, et cet acte concret produit la mort. En réfléchissant à ça, je me disais, au fond, dans notre vie, on récupère les dégâts de ces passions qui nous ont entraînés, hein, et on voudrait se libérer de tout ce qui finalement détruit notre vie, puisque le péché détruit toujours, mais ce n'est que progressivement qu'on prend conscience de la convoitise qui est derrière le péché. Ça revient à ce que disait ce matin, c'est-à-dire il y a quand même à prendre conscience mieux de ce qui est derrière le comportement lui-même désordonné. Prends conscience de la convoitise, et après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? De prendre conscience qu'on a accroché, de prendre conscience du pouvoir de séduction de cette convoitise sur nous, d'arriver à reconnaître que nous ne sommes pas innocents que ça, qu'il y a eu bien quelque part un consentement intérieur. Juste à la fin du repas, une personne me parlait d'une personne homosexuelle qui souffre de pas vivre selon ce que dit l'Église, mais qui en même temps reconnaît qu'elle ne veut pas changer de vie. Enfin, elle ne peut pas, elle ne veut pas. C'est toute l'ambivalence un peu qui se trouve là, qui s'enracine encore une fois. Le point d'attachement, il est dans le secret du cœur, et nous avons besoin de faire tout un chemin pour arriver à reconnaître ce que j'ai appelé la complicité secrète. Et pourquoi les convoitises ont-elles un pouvoir comme ça de séduction sur le cœur de l'homme? Pourquoi l'amour possessif d'une personne comme ça, qui, qui s'offre à nous pour peut-être nous séduire alors que intellectuellement nous savons que cet amour ne mène à rien et nous nous laissons prendre. Si vous voulez, à la racine de la racine, si je peux dire, c'est-à-dire à l'origine de cette capacité que nous avons de nous laisser séduire par des passions mauvaises, il y a un péché originel. Il y a précisément cet esprit aussi de possession et de domination dont nous avons parlé depuis le début. Et ce fond d'orgueil, ce fond de cupidité, qui fait que les passions peuvent avoir un pouvoir sur nous. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas de grosses blessures psychologiques, qui ne sont pas donc confrontées à des tendances désordonnées, graves, et qui mènent une vie moralement honnête. Mais qui n'en sont pas moins contaminées dans leur comportement par un esprit de domination et de possession. C'est l'exemple des pharisiens. Et ces personnes-là, habituellement, ne voient pas, comme ça m'a été fait remarquer, la nécessité de se confesser, puisqu'il n'y a rien qui affleure au niveau d'actes désordonnés. Et j'ai envie de dire, c'est le drame des gens bien. C'est le drame des gens bien parce qu'ils risquent de passer toute leur vie sur terre sans voir la nécessité d'une purification plus profonde que simplement celle de notre comportement extérieur. Sans voir la nécessité d'une mort à soi-même, sans voir la nécessité d'aller jusqu'au bout de ce décentrement qui fait que nous ne vivons plus comme dit saint Paul, le Christ est mort pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, centrés sur nous-mêmes et centrés sur Dieu. J'ai envie de dire là que la grâce d'une vie de couple, c'est que normalement, même si on n'a pas de grosses pathologies, de toute façon, dans cette vie commune, il y a toujours il y a quand même toujours des petites choses qui sont révélatrices de ces péchés de fond, qui fait que si on a un désir vraiment d'une vraie communion de cœur entre époux, et si on ne se résigne pas à une petite vie confortable à deux, normalement, le mariage est un terrain favorable pour découvrir ses péchés secrets.
Dur, hein. Alors par rapport à ce que tu disais avant sur la parole, moi la parole de Dieu m'a fait prendre conscience de plusieurs fois et souvent, en demandant au Seigneur, en me disant, bon, je faisais peut-être partie des gens bien propres sur eux, comme ça, extérieurement. Donc, en demandant au Seigneur une parole pour aller me confesser, je suis souvent surprise de la parole sur laquelle je tombe. Je vous avais dit la dernière fois, j'étais tombée sur une parole sur l'argent, ça m'a perturbée, je me suis dit, oula, j'aime pas trop toucher à ce domaine-là. Et en fait, en approfondissant, j'ai bien vu les attachements à l'argent, les émotions quand on en perd, les radinismes dans certains comportements, etc. Donc ça, c'est pas marrant. Et puis, de travailler, de savoir pourquoi on met... je me dis, pourquoi je mets ma sécurité dans l'argent, quoi. Et de chercher un petit peu, d'aller un peu en profondeur. Et c'est amusant parce que ça m'a fait revenir à la parole que j'avais eue il y a 20 ans sur le « Tout ce qui est à moi est à toi », de voir la frustration du fils aîné par rapport au fait qu'il n'a pas eu l'héritage à l'avance comme l'autre et qu'il n'a pas pu aller faire la fête et je me retrouvais bien en me disant, voilà, et en fait, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais cette parole me fait faire tout un chemin intérieur où je me rends compte que je n'aurais pas pensé avant de me confesser sur l'argent. Et là, je m'aperçois que c'est subtil dans plein de petits trucs. Et je sens que ça résiste, et donc c'est amusant parce que je ne l'avais pas vu avant, et le fait que le Seigneur me l'ait montré avant de me confesser, la parole sur l'argent, maintenant je le vois partout, c'est terrible. On a plein d'attachements, je me dis, mais il faut que je fasse vraiment, des efforts dans ce domaine.
Je repense à l'évangile d'aujourd'hui, le publicain qui est dans une situation de pécheur public. À travers ses péchés visibles, ses péchés extérieurs, il peut suivre un chemin d'humilité et de confiance. En fait, Dieu purifie son cœur. Saint François de Sales dit que le Seigneur nous laisse tomber dans certains péchés de faiblesse pour nous maintenir dans l'humilité ou nous faire grandir dans l'humilité. Mais pour ceux qui n'ont pas, cette chance d'avoir des gros péchés visibles, pour ceux qui n'ont pas cette chance d'avoir des gros péchés visibles bien humiliants, il n'y a qu'une pratique, affinée et fidèle de la confession, avec tout ce que nous avons dit jusqu'ici, qui permet de progressivement de labourer suffisamment le cœur pour arriver à trouver les racines cachées. Mais en réalité, ces racines cachées, elles se révèlent toujours quelque part à l'extérieur. Il y a toujours un moment où ça effleure quand même. Mais comme c'est des trucs auxquels on est habitué, des petits comportements de rien, on ne fait pas attention. Hein, mais il n'y a pas de vie extérieure qui soit vraiment propre si le cœur n'est pas vraiment entièrement purifié. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où on ne s'arrête plus aux petits détails comme ça. Mais repensez à ce que nous avons dit ce matin, la vie commune, le regard de l'un sur l'autre, tout cet effort de vérité peut faire que... Le but, c'est pas d'être le plus clean possible, le but c'est de profiter des petites fautes auxquelles on ne fait pas attention, mais auxquelles on peut être plus sensible à travers une attitude de vérité, d'en profiter pour trouver les racines cachées. Parce qu'en définitive, ce qui nous intéresse, c'est de mourir à nous-mêmes. Purification profonde du cœur, la vraie sainteté. C'est là qu'est la vraie joie, c'est là qu'est la plénitude de la vie. Donc, je pense à des personnes que j'ai connues qui, elles, retombaient régulièrement, mais revenaient comme le papa du père... comment il s'appelle, le père canadien ?
Dénion,
hein, qui à chaque fois revenait dans la confession en se confessant parce qu'ils étaient retombés, mais qui revenait, on sent qu'il y a un creusement dans le sens d'une humilité, d'une confiance en la divine miséricorde, qui fait qu'à un moment, alors que pendant des années ils combattent sans y arriver, il y a un moment où cette purification du cœur produit son fruit et les personnes sont à ce moment-là, libéré aussi de la tendance. Mais si je puis dire, le Seigneur nous laisse nos gros défauts autant qu'on en a besoin. C'est du bon usage du péché. Savoir profiter des péchés pour avancer dans cette vie pénitentielle. J'espère que je me fais bien comprendre. Alors, nous allons passer au troisième axe, qui est le troisième acte, on peut dire aussi, hein, qui est la satisfaction, après avoir vu la contrition et la confession. Donc, on va dire que la pénitence au sens large a deux dimensions. C'est d'abord une réalité intérieure, ça s'appelle au fond la contrition, le repentir, mais qu'elle est aussi extérieure, et à ce moment-là, cette pénitence extérieure, c'est ce qu'on entend habituellement par pénitence, c'est-à-dire des actes concrets que l'on pose pour, je dirais, dans notre lutte contre le péché. Donc, en faisant les efforts concrets qui dépendent de nous et qui accompagnent la conversion intérieure. On trouve dans l'Écriture cette association. Écoutez Saint Jacques. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Nettoyez vos mains, c'est la pénitence extérieure, les actes concrets que l'on pose pour, dans notre combat contre le péché. Et purifiez vos cœurs, donc c'est au niveau de la contrition. C'est difficile de dire « je renonce au péché au fond de mon cœur » si ce renoncement ne s'exprime pas dans des œuvres de pénitence. Et par rapport à ça, c'est un fait que pendant des siècles, vous voyez, les personnes se sont... Dans les siècles passés, il y avait un sens plus fort du repentir, les personnes... On a avancé à travers la confession dans le repentir intérieur, le repentir du cœur, et qu'en même temps, elles avaient aussi un sens plus fort de la pénitence, faisaient des pénitences plus rudes que maintenant, et des générations de chrétiens se sont sanctifiées en pratiquant à la fois la pénitence intérieure et la pénitence extérieure. Sans avoir besoin de faire une psychothérapie. Mais ce n'était pas la même époque que maintenant. Et donc, même si vous voyez, enfin, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que toutes ces passions que la psychologie analyse, elles se situent entre le cœur et l'action concrète. Et si le cœur se convertit et si je fais des efforts au niveau de mes actions concrètes, progressivement, de fait, moi je dis que le psychisme est pris en sandwich entre les deux, disons qu'il se situe entre les deux, on peut arriver à être donc libéré de ces mauvaises tendances en travaillant à la fois dans le plus intime et dans le plus extérieur. La conversion profonde du cœur d'un côté et une pratique de pénitentiel, par exemple du jeûne aussi, dont on parlera, et qui peut suffire pour, finalement purifier de nos passions désordonnées. C'est un fait que cette manière de procéder est devenue plus difficile parce que l'approche psychologique elle s'impose et que les gens ressentent plus le besoin de comprendre, d'analyser le danger étant de rester, comme nous l'avons dit, hein, dans une auto-analyse sans voir que la question n'est pas de comprendre jusqu'au bout nos passions, mais d'y renoncer jusqu'au bout. Alors, comment vivre ces efforts au niveau des actes concrets? Les bonnes résolutions qu'on prend à la fin d'une confession. Écoutez le catéchisme. L'absolution enlève le péché, mais elle ne remédie pas à tous les désordres que le péché a causés. relevé du péché, le pécheur doit encore recouvrer la pleine santé spirituelle, doit en faire quelque chose de plus pour réparer ses péchés. Il doit satisfaire de manière appropriée. Cette satisfaction s'appelle aussi pénitence. Ici, c'est tout un art, voyez, de trouver la pénitence dont je suis capable, qui est à ma portée, et qui va accompagner donc ma progression dans le repentir, qui va me permettre donc d'aller plus loin dans mon renoncement au péché, de trouver le lien entre ma conversion intérieure et la manière dont elle doit se vivre et s'exprimer extérieurement. Je suis frappé de voir qu'il y a des personnes qui font des belles retraites de guérison intérieure, qui ont plein de lumière sur leurs péchés, sur leurs blessures et sur le fait qu'il y a en eux toutes sortes de choses, de mauvaises tendances à purifier, et qui ensuite reprennent la vie, n'arrivent pas à faire le lien entre ce qu'ils ont perçu dans le cadre de leur retraite et leur vie concrète. Voyez. Et donc, ils ne font pas d'efforts concrets dans le changement du comportement. Et c'est un fait que non seulement ils ne progressent pas, mais ils perdent même les lumières qu'ils ont reçues. Ça a été une conversion du cœur qui n'a pas abouti. Elle n'est pas allée jusqu'au bout et elle ne s'est pas exprimée et on est retombé dans le train-train habituel sans mener la lutte sur le terrain de la vie quotidienne. Alors ici, je me permets de faire une petite réflexion, c'est que vous savez qu'en gros, dans la psychologie, il y a deux écoles. Il y a l'école psychanalytique, c'est la guérison, c'est beaucoup dire, parce que les grands psychanalystes n'osent pas parler de guérison, mais en tout cas, un chemin de certaine libération par la compréhension et la force de l'analyse. Puis de l'autre côté, vous savez, il y a un courant qui gagne du terrain, qui est le comportementalisme. Comportementaliste qui, lui, étudie le comportement. La personne se plaint d'une pathologie. Le psychologue comportementaliste, il m'a dit, écoutez, bon, c'est bien, c'est papa, maman, tout ça, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous prenez votre petit déjeuner, à quelle heure vous vous levez, comment vous faites ceci et cela. Et Josiane, vous me dites si je me trompe. Vous n'êtes pas comportementaliste. Coenael, en gros, c'est ça. Il ne s'occupe pas des causes. Voilà. Il ne s'occupe pas de la passion elle-même, ne cherche pas à mieux comprendre. On dit, écoutez, on va vous donner des règles de vie. Et de fait, en tout cas, c'est basé sur la force du comportement extérieur. Parce qu'à force de poser des actes contraires à la tendance, mais intelligemment, c'est-à-dire en mesurant les efforts, en ciblant bien, on va arriver à réduire la tendance elle-même. Eh bien, ça, c'est la pénitence extérieure. Ça donne des allures de découverte à la fin du XXe siècle, mais en réalité, l'Église a toujours pratiqué comme ça. Seulement, l'Église, elle pratique les trois. Elle pratique la connaissance, la reconnaissance de ses passions. Donc, elle n'a jamais condamné la psychanalyse. Elle pratique le comportementalisme, naturellement, parce qu'elle sait que c'est le corps aussi qui doit s'engager. Et elle pratique quelque chose que la psychologie ne peut pas faire, c'est-à-dire de travailler vraiment au niveau du cœur. purification du cœur qui échappe à l'analyse, qui se fait à travers notamment la prière, l'adoration, comme j'en ai parlé. Voyez, mais c'est trois niveaux, voyez, qu'il faut pouvoir articuler. On peut avoir un moment dans sa vie, on passe son temps à avoir besoin de comprendre pourquoi on a telle mauvaise tendance, pourquoi on retombe toujours truc. Bon, mais ça, il y a un temps pour la compréhension, il y a un temps pour voir au niveau du comportement, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Et puis, il y a un moment où le Seigneur nous montre, mais c'est, si regarde ton cœur, et nous purifie davantage, notamment, ce qui est la purification ultime, qui se vit dans les. À la fin, c'est la purification de ce fond d'orgueil qui est en nous. Naël, vous vouliez.
Oui, ça répond à une de mes questions parce que j'ai tout à l'heure sur les tentations et les choses qui se passent presque à l'insu. J'étais presque disposé à donner l'exemple suivant, c'est que je me disais, d'une façon préventive, dans ma vie, au travail, pour tout ce qui concerne les relations avec les femmes, je m'étais dit, pour ne pas tomber dans une tentation, je refuse de parler aux femmes en les appelant par leur prénom quand tout le monde le fait, alors que pour les hommes, ils ne le font pas. Et d'avoir un comportement qui est un peu en retrait, quitte à passer pour quelqu'un un peu froid. Et donc je m'aperçois que j'étais dans le comportementalisme, mais qu'après il faut aller au-delà.
Oui, vous voyez, la pénitence, hein, ça engage toute la vie, et je dirais toutes nos facultés. Ça engage notre intelligence dans l'acceptation de voir, de reconnaître les choses. Ça engage évidemment notre cœur dans la contrition. Et ça engage aussi notre corps. L'engagement du corps de la manière la plus basique, la plus simple, la plus accessible, et d'une manière étonnante toujours valable, toujours utile pour lutter contre les passions désordonnées, ça s'appelle le jeûne. Je laisse la parole à une spécialiste.
Moi j'ai fait l'objet de guérison intérieure il n'y a pas très longtemps. Et donc j'ai reçu beaucoup de lumière, comme le père lui a dit, on reçoit beaucoup de lumière, on a beaucoup d'explications, voilà. Et je tombais toujours dans les mêmes comportements et du coup j'étais très triste et je ne voyais pas comment j'allais réussir à passer au-dessus. Et à rentrer dans un nouveau comportement, en fait. Et donc vient le jeûne du mercredi des cendres. Voilà, j'ai jeûné. Et j'ai réalisé que j'étais beaucoup plus disponible à la grâce. Et que le Seigneur me donnait vraiment la grâce, justement, de passer au-dessus de mon comportement de péché habituel. Et j'étais touchée par cette parole où le Seigneur dit il y a des choses, des démons qui partent par le jeûne et la prière. Voilà. Et donc du coup, comme la paroisse proposait une semaine de jeûne, je me suis lancée dans cette semaine de jeûne. Et pour moi, effectivement, ça a été une grâce extraordinaire. J'ai pu vraiment m'abandonner dans le Seigneur et être beaucoup plus disponible à sa parole et avoir des temps de prière beaucoup plus attentifs, beaucoup plus. Efficace, je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais beaucoup plus attentive. Et voilà, donc j'ai vraiment reçu des lumières qui sont très importantes et qui ont pu déboucher sur une confession. Je suis arrivée donc, à cette retraite de jeûne avec le cœur, ce désir vraiment de me changer. Et cette pénitence extérieure a permis vraiment, m'a permis de rentrer. En tout cas, elle m'a permis de faire un nouveau pas, ça, je suis sûre. Et voilà.
Je me souviens d'une personne que je recevais en confession régulièrement qui avait la triste habitude Le soir, c'était plus fort qu'elle, elle se travestissait et elle sortait dans le quartier de Pigalle, travestie comme ça, et je ne vous décris pas la suite. Mais par ailleurs, elle allait à la messe tous les jours. Et elle venait à Montmartre pour adorer. Elle est sortie de l'adoration, il fallait qu'elle fasse très attention parce que. Et une fois, elle s'est confessée à un vieux prêtre qui lui a demandé de jeûner comme pénitence, qu'on n'ose plus proposer. Et pendant des siècles, la pénitence était lourde. Et donc, vous jeûnerez au pain et à l'eau, tout ça. Et elle est revenue me voir en disant, voilà, j'ai trouvé un confesseur qui m'a demandé de jeûner, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai arrêté mes bêtises. C'est mystérieux, hein. On se dirait quel rapport entre le fait d'avoir envie de se travestir et le fait de jeûner au pain et à l'eau. Oui, c'est là qu'on voit l'unité de la personne, hein, et le fait qu'un renoncement sur un certain plan, où on peut faire ce renoncement, elle n'était pas capable de renoncer à cette habitude elle-même, ce n'était pas la force de lutter directement, mais elle a fait un effort sur un autre plan et qui touche quand même toujours à ce besoin de jouissance immédiate. Hein. Donc on se prive au niveau de notre besoin de jouissance immédiate et ça se répercute. Vous voyez, sur un plan parallèle. Et c'est là que la tradition pénitentielle de l'Église, elle est très riche, elle est à redécouvrir, parce qu'elle nous donne des clés expérimentées pendant des siècles, qui sont en plus présentes dans l'Écriture, vous voyez, et qui dépassent la simple logique comportementaliste. Parce que je ne pense pas qu'on trouve un psychologue comportementaliste qui prescrive un jeûne. Non, mais ce n'est pas la première fois que je remarque que ça joue au niveau sexuel. Vous voyez, de manière étonnante. Alors, la pratique du jeûne, la pratique fidèle du jeûne contribue à l'unification de la personne humaine, corps et âme. C'est une arme spirituelle pour lutter contre tous les attachements désordonnés. L'expliquer entièrement, une force capable de mettre un frein au péché, de réprimer les désirs du vieil homme, et d'ouvrir dans le cœur du croyant le chemin vers Dieu. C'est difficile, hein, d'expliquer rationnellement la force du jeûne. Ce que je vous propose, c'est d'essayer. Dans cet esprit, dans quel esprit jeûner? Eh bien, dans un esprit de mortification de ce besoin de jouissance immédiate, du plaisir de manger, qui donc est connexe au plaisir au niveau sexuel. Et dans cette privation d'un plaisir, il y a l'espérance, enfin, le fait dans l'espérance de pouvoir ainsi mieux, être mieux à même de goûter la douceur de Dieu. Écoutez, saint Augustin, je m'inflige certes un supplice, mais pour qu'il me pardonne. Je me châtie de moi-même pour qu'il m'aide, pour plaire à ses yeux, pour arriver à la délectation de sa douceur. Vous voyez, ce n'est pas pour arriver à simplement à se maîtriser soi-même, mais en définitive, c'est pour arriver à goûter Dieu en ayant laissé plus de place à la douceur de Dieu, précisément en renonçant à d'autres formes de douceur. Là, il y a l'idée de dégager le terrain, hein, de se désencombrer. Je fais appel à une autre spécialiste.
Spécialiste, tu m'informes. Hein. En fait, moi, de 82 à 92, j'ai fait partie de Mère de Miséricorde, où on jeûnait pour les enfants qui étaient en danger d'avortement, pour les mères. Et à cette époque-là, j'avais pas trop de difficultés à le faire. Enfin, j'étais pas marrant, mais à coup de volonté, j'y arrivais. Et puis, à partir de 92, j'étais obligée d'arrêter parce que j'arrivais plus à jeûner du tout. Donc j'étais assez humiliée, mais impossible, j'y arrivais plus du tout. Donc j'ai arrêté Mère de Miséricorde en disant, moi je veux bien prier, mais jeûner, plus possible. Donc la spécialiste avait perdu pied. Et puis jusqu'à cette année, j'avais jamais repris, donc vous voyez, je suis passée 14 ans sans jeûner. Impossible, j'y arrivais pas, à chaque fois que j'essayais, c'était catastrophique. Donc, et cette année, j'ai une de mes filles qui a jeûné, et alors qu'elle était comme moi, elle disait tout le temps, j'y arriverai jamais. Puis elle m'a téléphoné en me disant, waouh, je suis contente, j'y arrive, etc. Alors moi, j'étais vexée, je me disais, bon, si elle y arrive, faut que je fasse. Je me dis, zut, alors elle y arrive, moi, j'y arrive toujours pas. Et grâce à ses encouragements, elle m'a beaucoup parlé, et puis grâce à ses encouragements, je me suis dit, je vais m'y remettre. Et là, j'ai fait une grosse découverte en faisant, pas une journée, mais longtemps. J'ai découvert d'abord qu'il y a 10 ans, quand je jeûnais avec une intention, bien sûr, mais je me souviens très bien que je le faisais avec ma volonté propre et sans me tourner vers le Seigneur pour le vivre, ce jeûne. Et donc, quand j'avais faim, je me distrayais, je faisais autre chose, etc. Et là, ma fille m'a dit, non, mais quand on a faim, il faut se tourner vers Dieu. Pourtant, j'aurais dû le savoir, mais non. Cette semaine, je me suis dit, bon, ben d'accord. Alors, à 5 heures du soir, quand je craquais, je me disais, bon, si je reste à la maison, c'est pas possible, je vais manger. Là, je tournais autour de la cuisine. Alors, je partais à l'église en me disant, on va voir si ça marche. Je vais aller à l'église et puis je restais jusqu'à la messe en me disant, comme ça, là, il n'y a rien à manger dans l'église. Et puis finalement, j'ai tenu le coup. Alors j'étais très très contente. Je me disais, donc c'est pas impossible avec Jésus, c'est possible. Et en fait, je me suis rendu compte du fait qu'il fallait, en fait, ça fait mal en fait au bout d'un certain temps. On est fatigué, on a mal, ça creuse l'estomac, etc. Et je me suis rendu compte que cette souffrance-là, bah, de la regarder en face et de la vivre avec Jésus, eh bien, ça me faisait penser à tous les aspects de manque qu'on compense comme ça, et on tombe dans le péché parce qu'on ressent un vide, un manque. Et puis, au lieu de se tourner vers le Seigneur, moi je me disais, j'y croyais pas trop, je me disais, si je me tourne vers le Seigneur, est-ce qu'il ne va pas me remplir le manque? Et en fait, là, dans ce combat-là, ces derniers temps, là, j'ai vraiment découvert qu'il y avait quelque chose, que le Seigneur pouvait réellement, concrètement être présent et me faire comprendre. Et du coup, ça, comme tu disais tout de suite, ça me donne des lumières sur les autres attachements. Qu'est-ce que je cherche à combler, qu'est-ce que je cherche dans les autres péchés. Voilà. Donc, je ne suis pas une spécialiste. Hein.
Philippe, tu veux témoigner?
Je dis d'ailleurs. Non, non, mais j'ai pas vu de différence tant que les combats, on en a parlé, mais moi je me suis pas lancé dans un jeûne pour l'instant. Bon, j'ai encore beaucoup de chemin à faire.
Mais en fait, il a remarqué que je sortais de table et puis que j'allais me promener parce que rester à les regarder manger. Alors là, moi je trouvais d'autres trucs à faire.
Quand vous parlez de jeûne, vous parlez de jeûne.
Non. Ce qu'ils appellent, j'ai appris ici que ça s'appelait la monodiète. Moi, totalement, j'ose pas encore.
La tradition orientale, c'est de jeûner aux légumes. La tradition latine, c'est plutôt le pain et l'eau, mais du bon pain.
Non, à l'eau. Les retraites de jeûne, c'est pas l'eau.
Oui, mais c'est-à-dire.
L'idée de jeûne, retraite, mais obligé.
Oui, non, mais je parle au niveau d'un jeûne de chaque semaine durant l'année. Hein, c'est-à-dire arrêter brutalement de pendant toute une journée, je m'adresse au médecin. Là.
Oui, bah, il y a différentes formes de jeûne, en fait. Il y a le jeûne au liquide, oui, c'est ça, avec les bouillons, les tisanes, le jeûne de Schillinger avec les jus d'orange et les jus de légumes. Et puis il y a le jeûne monodiète, où là, on prend un repas de somme par jour, ou ça peut être que du riz, ou du petit pain. Là. Donc différentes formes de jeûne. Mais c'est vrai que quand on jeûne complètement, au bout de 3 jours, on n'a plus faim, en fait.
C'est ça.
Et
c'est
le corps ça. S'organise différemment, et on est fatigué, mais on n'a plus faim. Et on cuisine encore mieux.
Parce que quand on jeûne complètement à l'eau, jusqu'aux les trois premiers jours sont difficiles, mais après on a envie de continuer quatre jours.
Voilà.
On a plus envie de s'arrêter, peut-être voilà. On est bien. Ouais, on a une force physique, on a une énergie physique et un état d'abandon à Dieu, le total. Et le jeûne complet, je parle avec à l'eau.
Le jeûne complet, il faut être accompagné de médecins, non?
Nous, dans notre groupe, il y a un médecin spécialiste du jeûne. Enfin, c'est pas moi, qui nous accompagne, hein, qui nous a parlé de la réalimentation, et elle était là tous les soirs. Et on se retrouve tous les soirs pour un groupe de partage, on vit l'Eucharistie ensemble, sinon on peut le maintenir. Oui. C'est ce qui fait justement la beauté du jeûne, c'est de vivre vraiment en église, avec, en portant les intentions.
Ma fille me disait que s'il n'y avait pas eu la paroisse avec elle, elle n'aurait pas tenu. Et aussi, je trouve que la monodiète, ça nous apprend la modération en fait. C'est comme, faut tous les jours faire attention à prendre très peu, et bien on est obligé de... C'est pas facile, ça demande une discipline. Mais ça entretient la faim justement, contrairement à ce que tu dis là. Moi, j'ai l'impression d'avoir faim tout le temps.
Justement, je me suis toujours posé une question que je n'ai pas posée dans les lieux où j'ai fait ces jeûnes. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut être si mal pendant trois jours? Moi, le troisième jour, j'avais mal à l'estomac, à croire que j'allais faire une perforation ou que j'étais vraiment à des nuits épouvantables. Et puis après, à partir du quatrième, un bien-être total. Et qu'est-ce qui fait dans le corps que tout d'un coup, on n'a plus faim, on est bien?
Parce que le corps au début il réclame parce qu'il a l'habitude que l'énergie vient de l'extérieur. Et puis ensuite au bout du troisième jour, en fait, il réalise en gros qu'il n'aura plus rien par la bouche. Qu'il s'en compte très différemment, donc il prend dans les réserves en fait. C'est un nouveau cycle de métabolisme qui se met en route.
Il a compris qu'on ne céderait pas. Hein.
Voilà, c'est ça.
Il pourrait comprendre plus vite. Cela dit, c'est comme pour le repentir, c'est comme pour l'attitude de confession. Il y a un esprit de jeûne qui peut être permanent, qui s'appelle la sobriété. C'est-à-dire, on ne se laisse jamais aller. On ne se laisse jamais aller. C'est-à-dire qu'on ne se laisse jamais aller au sens de lâcher la bride à ce besoin de jouissance immédiate, même lors d'un mariage. Mais oui, parce que se laisser aller à dépasser ce que notre corps a réellement, ce dont notre corps a réellement besoin, ça, c'est pas une absence de jeûne, c'est une faute contre une justesse de vie, j'ai envie de dire, hein, qui fait que Dieu nous demande toujours de rester à l'écoute de notre corps pour prendre soin de notre corps. Quand on dépasse nos vrais besoins, on ne prend plus soin de son corps. La meilleure preuve, c'est que le corps, il est pas bien. Et on n'a jamais le droit de faire ça. Et ça, cette sobriété vécue en tout temps, elle est une sacrée pénitence aussi. Non, je le dis d'autant plus que comme prêtre, vous voyez, quand on se laisse aller, eh bien, on le voit tout de suite au niveau de la manière dont on célèbre l'Eucharistie ou dont on peut prêcher. On est alourdi, et Jésus le dit explicitement, hein. Il dit explicitement, tenez-vous sur vos gardes de peur que la débauche, l'ivronnerie, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on dépasse les limites, et les soucis aussi, n'alourdissent votre cœur. Et que vous ne soyez pas prêts quand le Fils de l'homme viendra. Vous savez, c'est dans Saint-Luc. Et que de fois, moi, je me suis mordu les lèvres de n'avoir pas été plus attentif que ça, parce que je ne savais pas que je rencontrerais telle personne à l'issue d'un bon repas, et que je me dis, oui, tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent dans la débauche, l'ivronnerie, les soucis de la vie. Luc 21, 34. Et qui fait que, au moment où le Seigneur nous visite, ça peut être une personne qui a besoin d'une écoute, eh bien, on est là. Malheur à vous qui êtes repus, dit Jésus. Et donc il y a un éveil du cœur à maintenir un esprit de prière qui va de pair avec la sobriété. C'est Saint Pierre qui dit explicitement « Soyez sobre en vue de la prière ». Donc il y a des exercices de pénitence comme il y a des exercices de confession intense, mais il y a une attitude, voyez, qui fait qu'on vit notre vie pénitentielle tout au long de notre vie terrestre, encore une fois, en ne se laissant jamais aller. Ça, c'est difficile à encaisser, mais en réalité, une fois qu'on a compris que ça faisait partie du programme, si je puis dire, eh bien, ça nous évite bien des malheurs, parce que, évidemment, quand Jésus dit « veillez, priez afin de ne pas entrer en tentation », le veiller, vous voyez, je ne permettez pas que votre cœur s'alourdisse comme ça, et le cœur peut s'alourdir à cause du corps. Et veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation, c'est-à-dire on évite bien des tuiles, bien des tentations, en se tenant toujours, je dirais, rein sain et lampe allumée. Position de combat. La vie est un combat permanent, position de combat. On a besoin de temps de repos, mais c'est le Seigneur qui les donne. Voilà, la vie pénitentielle, donc la pénitence extérieure, elle traverse toute la vie. À cette pratique de la mortification, on va dire, hein, qui est plus large que le jeûne au niveau du corps, hein, il y a évidemment un jeûne au niveau de la musique, au niveau des images. Combien de fois on se fait avoir en regardant des images dans le métro qu'on n'a pas à regarder, il y a un silence des yeux. Pratiquer, sobriété, pas se nourrir d'images. Mais à cette pratique de la pénitence comme mortification volontaire, se rajoute celle de l'aumône, c'est-à-dire d'une pratique de l'attention au prochain, de la miséricorde, vécue dans un esprit pénitentiel. Ici, je peux vous confier le fait que pendant des années, quand j'étais aumônier d'hôpital, j'étais en plein travail sur moi-même en même temps. J'aimais dire que j'étais hospitalisé moi-même, mais c'était mon cœur et mon psychisme qui étaient labourés par le Seigneur. Et que de fois j'ai ressenti que c'était pour moi une planche de salut que de pouvoir exercer, de pouvoir exercer la miséricorde vis-à-vis des autres. Dieu fait miséricorde aux miséricordieux. Donc il y a un temps pour tout, il y a un temps pour travailler sur soi, pour se confesser, il y a un temps pour ne plus se regarder, mais regarder la souffrance de l'autre et être tout à l'autre, et le Seigneur qui voit dans le secret nous le rendra. Donc il faut saisir les occasions de miséricorde, voyez, surtout quand on n'est pas bien, saisir les occasions de rencontrer quelqu'un qui est encore moins bien que nous. Dans ces moments où on serait tenté de dire « moi je suis vraiment pas bien, je ne suis vraiment pas... » Mais non, en fait, le Seigneur nous tend une planche, nous tend une perche, je veux dire. Hein? Nous donnant de rencontrer quelqu'un à consoler alors que soi-même, on a envie de pleurer.
J'ai vécu ça la semaine dernière, à un moment, sans doute parce que je ne mangeais plus. Et un matin, je me suis levée vraiment le moral à zéro. Et à ma prière du matin, j'ai dit à Jésus « envoie-moi quelqu'un pour me consoler, je n'étais vraiment pas bien ». Et le téléphone sonne un quart d'heure après, et j'ai une amie qui pleurait au téléphone et qui était très très mal, et qui pendant trois quarts d'heure m'a demandé de l'écouter. Elle était vraiment très 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 mal, et à la fin de son coup de téléphone, quand j'ai raccroché, j'étais complètement libérée de mon problème. Et je me suis dit, j'avais demandé au Seigneur, envoie-moi quelqu'un pour... me consoler, et il m'avait envoyé une personne vraiment très très mal. Donc ça rejoint ce que tu disais.
Enfin, il ne faut pas négliger les pénitences que le Seigneur nous impose lui-même par la vie. Ce n'est pas ce qui manque actuellement. La pénitence peut consister, dit le catéchisme, surtout dans l'acceptation patiente de la croix que nous devons porter. Il y a les pénitences volontaires, et c'est important de les redécouvrir. Actuellement, on redécouvre dans toute l'Église, notamment donc, cette valeur du jeûne. Mais il y a aussi les pénitences qu'on n'a pas choisies et qu'on n'aurait jamais choisies, qu'il nous faut savoir reconnaître, puisque c'est le Seigneur qui en dispose ainsi. Alors parmi ces peines, il y en a qui sont subtiles et qu'on a tendance à négliger. C'est les peines qui sont liées à nos péchés. Écoutez la petite Thérèse. C'est sa sœur qui lui confiait ses pensées de tristesse et de découragement après une faute. Donc ça, c'est la culpabilité. Elle répondit, « Vous ne faites pas comme moi. Quand j'ai commis une faute qui me rend triste, je sais bien que cette tristesse est la conséquence de mon infidélité. Mais croyez-vous que j'en reste là ? Oh, non, pas si sotte. Je m'empresse de dire au bon Dieu, « Mon Dieu, je sais que ce sentiment de tristesse, je l'ai mérité, mais laissez-moi vous l'offrir tout de même, comme une épreuve que vous m'avez envoyée par amour. Je regrette mon péché, mais je suis contente d'avoir cette souffrance à vous offrir. » Ça veut dire rebondir. Profiter même des peines directement liées à nos péchés, rebondir dans cet esprit d'offrande. En ayant confiance que la souffrance liée au péché, Jésus l'a liée à l'amour sur la croix. Donc il y a un chemin d'amour qui s'ouvre à moi dans la conséquence même de mes fautes. Récemment, une personne très blessée par la vie me disait qu'après avoir fait une thérapie par rapport à sa relation conflictuelle avec son compagnon, elle me disait « Avant, quand j'étais en colère, je voulais l'étrangler. » Maintenant, je suis parvenu à l'offrande. Quand je suis en colère, j'offre ma colère et ma souffrance pour lui. C'est tout ce qui me reste. C'est le seul cadeau que je puisse lui faire. Bien vu, hein ? Allez. On ne fait jamais pénitence pour soi seul. Et il est bon d'offrir toutes ces souffrances cachées liées à nos péchés, à ce chemin de pénitence que nous faisons, de penser que l'acceptation de ces souffrances peut aussi rejaillir sur les autres, et je dirais l'acceptation aussi des souffrances dû aux blessures de l'autre dans un couple, précisément là. Vous voyez, la personne sait rebondir, elle est blessée, elle se met en colère, mais elle sait rebondir en offrant dans l'intime de son cœur cette blessure et sa réaction pour la conversion de l'autre. De cette manière, il n'y a rien de perdu. Ça t'inspire, Anne-Claire ?
Ben, moi, j'ai passé directement de la colère à l'offrande. Moi, j'ai besoin de rouspéter entre les deux. Au début, je souffre toute seule. Après, je râle vis-à-vis du Seigneur. Et après, j'ai toujours une période où je rouspète, où j'ai besoin de sortir. De temps en temps, c'est lui qui prend, mais j'ai besoin de sortir une certaine. J'arrive pas à passer directement de souffrir sans à souffrir avec Jésus. Je fais souffrir sans, souffrir contre, et après souffrir avec. J'arrive pas à directement offrir les moments où je trouve que.
Pour offrir, il faut déjà passer par l'acceptation de l'État, la reconnaissance. Ce n'est pas un truc qui peut venir comme un système D. Philippe, de l'autre côté, ça se passe bien? Tu m'avais pas dit de préparer ça.
Non, je ne vois pas grand-chose à ajouter. Je crois que tout a été dit. C'est vrai que c'est un combat... un combat tous les instants, et puis on est toujours dans... Et ça rejoint ce que je disais peut-être ce matin, simplement, c'est que il y avait une époque où je ne me posais pas trop de questions sur tous ces sujets-là. Donc, bon, parce que c'était peut-être se faire des nœuds au cerveau, mais voilà, donc la vie en couple m'a vraiment amené à rentrer dans tout ce chemin qui est vraiment un chemin qui nous fait grandir, enfin qui me fait grandir moi, qui me permet de rentrer dans une proximité avec le Seigneur qui est réelle. Voilà, alors bon, il mesure, enfin bon, savoir où on en est, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ce qui est important, me semble-t-il, en tout cas, ça porte des tas de fruits dans sa vie personnelle, c'est qu'on avance.
Ce matin, vous parliez beaucoup plus d'être dans la vérité, de se dire les choses. Bon, maintenant, vous êtes en train de dire on offre. Bon, je sais que ce n'est pas contradictoire, que c'est pas, mais je ne sais pas. Enfin, ça, je pense que ça dépend de l'état dans lequel on est soi-même. Qu'il y a un moment pour tout, que chaque situation est différente, chaque couple est différent, chaque situation, et qu'il y a un moment pour tout. Alors, si on est en vraie charité, effectivement, on peut parler vérité tout de suite, et puis peut-être, ça me paraît plus une question d'état de soi-même, par rapport à sentir le moment où nous sommes prêts à dire quelque chose dans la charité, et où l'autre est prêt à entendre. Et je ne sais pas si la solution est la meilleure de dialoguer déjà, de parler, ou d'offrir directement, je ne sais pas. Ça me paraît un petit peu contradictoire, hein, ce que vous dites là, non? Est-ce que vous pouvez vous expliquer un petit peu?
je pense que l'offrande peut éventuellement préparer le dialogue, dans la mesure où ça permet d'aller jusqu'au bout de l'acceptation, en donnant vraiment sens à ce que l'on fait maintenant. Si c'est une offrande un peu... volontariste qui reste un peu superficiel alors qu'en fait on n'a pas du tout digéré la chose, c'est différent. Moi, quand j'étais tout jeune prêtre, j'étais beaucoup dans une spiritualité de l'offrande, mais je m'aperçois que j'offrais des choses que j'avais pas vraiment digérées et ça ressortait en colère 6 mois après, 1 an après. Donc, je pense que plutôt que de faire du forcing au niveau de l'offrande, le fait d'être en vérité par rapport à sa colère est encore un sacrifice plus agréable à Dieu. Sacrifice de l'humilité. Une spiritualisation un peu superficielle et hâtive, c'est pas bon parce que ça peut nous empêcher de voir le travail... De vérité et d'acceptation plus humble à faire avant que de donner un sens rédempteur aux choses.
Oui. Je voulais ajouter quand même que ce que vous venez de dire est important, parce qu'effectivement, vous entriez tout de suite dans l'offrande, peut-être, mais dans la sublimation de la situation. Vous étiez tout de suite, si un médecin, par exemple, n'acceptait pas qu'on vienne dans son service ou posait des problèmes, vous étiez triste d'une part, et tout de suite vous entriez dans l'offrande. Et puis effectivement, 6 mois après, on se rendait compte que vous étiez toujours dans votre colère et dans votre malaise. Et je trouve que c'est important. Autre chose que je voulais vous demander aussi, c'est si vous pouvez dire un mot par rapport aux jeunes dans l'autre sens, quand on jeûne trop, parce que quand on jeûne n'importe comment, qu'est-ce que ça veut dire?
Comment on déjeune?
Comment on déjeune? Alors, nous avons un spécialiste du déjeuner.
J'assume pour l'instant.
Bon, mais Josiane, vous pouvez nous parler des dangers de la sublimation?
Oui, c'est-à-dire que là aussi, ça peut être comme un... Ça peut devenir une jouissance, en fait. Trop de jeûne.
Ou une fuite.
Ou une fuite, non, ou un enfermement.
Je parle de l'assimilation dans l'offrande.
Oui, je crois qu'il faut effectivement être prudent sur ce que vous disiez, de trop vite passer à l'offrande, de refouler, et en fin de compte, de ne pas réellement accepter en profondeur ce que l'on vit. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la sublimation? Je ne suis pas sûre. Parce que si c'est vraiment sublimé, ça ne revient pas du côté du refoulé. Enfin, voilà.
Et parce que vous prenez sublimation positivement.
Oui.
Moi, je suis plutôt tendance à prendre négativement. Mais bon, là, c'est parce qu'on ne parle pas tout à fait le même langage. Mais... ce qui est sûr, c'est que, contrairement à ce que dit souvent, ce n'est pas nous qui donnons sens. Le sens, c'est Jésus qui le donne. C'est lui qui assume la souffrance et qui en fait un chemin d'offrande. Et donc, en fait, tant que le sens, c'est un peu nous qui le construisons dans notre mental, en se faisant un petit film, si je puis dire, à mon avis, là, c'est dangereux. Mais si, par contre, en étant proche du cœur blessé de Jésus, on sent cet appel à accepter et aller jusqu'à l'offrande, là, c'est différent. Vous voyez ? À l'intérieur d'une écoute du Christ et d'une intimité avec le Christ, il n'y a pas de danger de ce que moi j'appelle une sublimation superficielle, hein, mais on est pris dans un mouvement qui ne vient pas de nous, mais qui vient du Christ. De son offrande, parce que c'est lui qui a porté le poids des péchés, toutes les conséquences des péchés. Moi, c'est la distinction que je ferais en se disant que le danger au niveau spirituel, c'est de rester dans un spirituel mental, quoi. C'est-à-dire, en fait, on spiritualise dans notre tête, mais le cœur, il ne suit pas. Et c'est ça, le fait qui fait qu'on a une double vie. Et les psychologues là-dessus sont très, très doués pour nous faire remarquer que ça cloche. Mais on reparlera de la sublimation, j'espère, une autre fois, Josiane. Hein? C'est une partie remise.
Bon, il y a quand même, on voit bien qu'il y a tout un chemin à faire, que ça ne se fait pas en deux minutes pour certaines choses. T'es d'accord ? Il y a des choses, il faut du temps pour les digérer, et puis vraiment les offrir en ayant fait le travail de les digérer avant, oui. Moi, je trouve que c'est très net, ça. Si on ne le fait pas, ça revient un jour ou l'autre, quoi.
Oui.
Il y a une chose, moi, qui m'aide beaucoup, quand je me trouve dans cette situation, c'est de dire au Seigneur, si tu étais à la place, qu'est-ce que tu ferais? Je dis, voilà, Seigneur, tu es à ma place et qu'est-ce que tu ferais? Et souvent, j'ai une réponse. Pas tout de suite, forcément, mais
Ça rejoint un peu ce que je disais, c'est-à-dire laisser Jésus nous montrer le sens, nous découvrir le sens que lui donne et non pas le construire dans notre petite tête. Ce que j'appelle sublimation, c'est-à-dire un processus psychologique, mais qui n'est pas... une vraie spiritualisation, parce que la vraie spiritualisation, c'est de laisser Jésus nous faire découvrir le sens spirituel que lui donne.